Il est 8h passé de 2 minutes, vous êtes bien à l'écoute des Promesses de l'Aube et je suis ravie d'être en compagnie de Marie-Thérèse Kounen. Bonjour Marie-Thérèse. Bonjour Marie-Thérèse.
Oui, bonjour.
Voilà, je t'entends parfaitement maintenant. Tu es chargée de recherche au CAROP, au centre...
D'animation et de recherche en histoire ouvrière et populaire.
Voilà, c'est ça. Et nous sommes également en compagnie de Dominique Daunier, qui est le bibliothécaire en chef, le directeur de la bibliothèque de Saint-Josse.
Exactement,
ici.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue à vous deux. Merci d'avoir gravi les 100 marches qui mènent au studio de Radio Panique. En plus, un petit matin frisqué. Hein.
Oui.
Il fait pas bien chaud dehors. Et si vous êtes là, c'est pour parler de la revue du CAROP qui est consacrée à la bibliothèque et intitulée « Quand la bibliothèque s'émancipe, 1858-2021, quand la bibliothèque s'émancipe entre parenthèses ». Et si vous avez sorti ce numéro de la revue en décembre dernier, c'est parce que, il y a une loi, la loi Destrée sur la lecture publique, qui a célébré ses 100 ans, cette loi de 1921. Donc, la célébration du centenaire de cette loi était l'occasion pour vous d'entrer dans l'histoire de la lecture publique et surtout, comme vous le dites dans votre éditorial, d'interroger en quoi celle-ci contribue à l'émancipation culturelle. Et donc, on se rend compte que les bibliothèques publiques existent depuis de nombreuses années, déjà bien avant 1921, 19e siècle, il y avait des bibliothèques dites populaires et donc ces bibliothèques avaient pour objectif de proposer aux couches populaires surtout de quoi occuper leur temps libre qu'il fallait bien contrôler aussi. Comment ça s'est passé l'émergence des bibliothèques populaire en Belgique.
Dans un premier temps, une date d'anniversaire, la loi 21 de Jules Destrée, c'est souvent l'occasion de réfléchir et de se dire, tiens, quel est le parcours, qu'est-ce qui s'est passé depuis ce moment qui apparaît comme fondateur de la bibliothèque, de la lecture publique, parce qu'il s'agit bien de la lecture publique, c'est-à-dire des bibliothèques, un service mis à la disposition de la population et subventionné par l'État. Et donc, que s'est-il passé? Pourquoi la loi est passée? Quel impact elle a eu sur le développement, évidemment, de la lecture publique? Donc, le CAROP, qui est un centre d'histoire sociale, se préoccupe assez souvent de développer un peu comment la culture populaire, comment l'éducation populaire s'est développée sous ses différentes formes. Et donc la lecture publique, la bibliothèque publique fait partie évidemment des instruments au service de cette émancipation du peuple. Tout comme l'école d'ailleurs, l'instruction publique fait partie aussi de cette émancipation, de la multiplication des savoirs. Et donc... J'ai proposé ce sujet et à la revue Dynamique, Histoire sociale en mouvement, et je me suis adressée à des historiens qui sont beaucoup plus spécialistes que moi de la question, parce que bon, on ne peut pas être expert en tout, et donc Bruno Lizen a accepté de faire l'introduction de ce dossier en recadrant un peu la loi Destrée. En disant, il commence d'ailleurs par montrer qu'il y a des multiples formes de bibliothèques qui existent déjà à la fin du XVIIIe siècle. C'est plutôt réservé à l'élite, c'est réservé à la bourgeoisie. Il faut payer une cotisation. On peut soit c'est un salon de lecture, soit on peut déjà emprunter des livres, mais ça reste vraiment réservé à une élite qui peut payer un abonnement et qui peut évidemment qui sait lire et écrire. Je rappelle que l'école n'est obligatoire chez nous qu'à partir de 1914, donc il y a énormément de gens qui sont analphabètes, qui savent ni lire ni écrire, particulièrement dans la classe populaire et dans le milieu ouvrier. Et donc, Bruno Lizen explique dans son article que la première stimulation venant de l'État fédéral, enfin de l'État-nation, est en fait une circulaire ministérielle, un arrêté ministériel, l'arrêté Van de Perenbaum, en 1962, et qui stimule les communes, qui invite, il est ministre de l'Intérieur, hein, ce monsieur Van de Perenbaum, il invite les communes à développer des bibliothèques populaires. Et que dans ces bibliothèques populaires, il faut évidemment qu'il y ait des ouvrages à destination du grand nombre, des ouvrages de culture générale, technique, etc. Mais il ne donne pas un euro, enfin un franc à l'époque. Et donc, il va stimuler les communes. Et progressivement, il va aussi essayer de développer les écoles pour adultes avec chaque fois une bibliothèque. Il va aussi... l'époque est à la multiplication des bibliothèques, que ce soit via les écoles d'adultes ou que ce soit via les universités populaires à la fin du siècle. Bref, chaque fois qu'il y a formation ou instruction, il y a quelque part l'envie de joindre une bibliothèque. Et puis, ce numéro, c'est qu'on construit autour de M. Lizen qui donne le cadre de l'évolution des bibliothèques publiques, des bibliothèques populaires à l'époque. Et je me suis dit, mais tiens, pourquoi ne pas s'interroger sur un grand centre international qui est le Mundaneum, le palais mondial, où l'orfèvre est... son nom m'échappe pour le moment... La Fontaine, ont mis en place un système de classement international, universel, décimal, pour classer tout le savoir du monde entier. Et donc, j'ai eu la contribution, évidemment, du Mundaneum pour faire cet article. Et c'est assez passionnant aussi de voir comment on a réfléchi à la catégorisation des savoirs, comment est-ce que dans le monde, quelle que soit la langue et quelle que soit la matière, on puisse organiser ça pour que tout le monde ait les mêmes codes. C'est assez internationaliste. C'est aussi dans l'idée d'échanger les savoirs entre les peuples. Et c'est aussi dans une idée que par la connaissance, on arrivera à la paix dans le monde. Donc La Fontaine et l'orfèvre sont vraiment deux grands artisans et deux grands personnalités, disons, qui ont rendu quelque part scientifique le métier de bibliothécaire. Et la troisième contribution, ça, je suis retournée sur le terrain local. Je me suis dit, tiens, moi je vais à la bibliothèque publique de Saint-Josse. J'ai toujours fréquenté les bibliothèques publiques depuis que je suis toute petite. Je vais à la bibliothèque chercher des livres. Je suis une grande lectrice, donc pour moi c'est naturel d'aller à la bibliothèque, de ne pas toujours acquérir le livre chez soi. Et j'ai demandé à Dominique Daunier de bien vouloir témoigner de son métier et de faire le point sur le métier de bibliothécaire. Et le dernier article de ce numéro, comme ça vous avez l'ensemble de ce qu'il comprend, c'est se rendre compte que la bibliothèque est un outil pour l'émancipation et pour l'accès à la culture du monde populaire, aujourd'hui pour tous les publics, quels qu'ils soient, et de quelque culture qu'ils soient. Mais ce n'est pas la seule. Et bien souvent, il y reste encore des publics qui ne passent pas le pas de porte. Je crois que Dominique Daunier va expliquer tout ce qu'il fait comme démarche pour arriver à ce que ce pas de porte soit franchi. Mais en l'état, il faut quand même se rendre compte qu'il y a un travail d'éducation permanente important à faire pour que le livre devienne un objet utile, agréable, qui permette de faire rêver, qui permet de sortir du quotidien. Et la petite ASBL La Ruelle, toujours à Saint-Josse, a commencé ses activités sur Saint-Josse vis-à-vis des enfants par justement les bibliothèques de rue. C'est un modèle apporté par ATD Carmonde qui développe ça dans différents lieux où ils sont implantés. Il y a le pivot culturel à Namur, par exemple, qui fait de la bibliothèque de rue. Et ici à Saint-Josse, c'est La Ruelle qui s'y est mise et qui allait devant les écoles, sur les pas de porte, dans les parcs, dans les jardins publics, pour rencontrer les enfants et pour rencontrer les enfants et les parents et pour discuter avec eux, présenter les livres, lire des livres, avoir le plaisir de découvrir à travers le texte et l'image l'histoire qui y était racontée. Voilà. Donc ça, c'est le numéro un peu étonnant, un peu éclectique peut-être. Ce n'est pas que que l'histoire des bibliothèques, c'est aussi qu'est-ce que cela veut dire comme outil d'émancipation et comme outil d'apprentissage de la culture pour le milieu populaire. Voilà, ça c'est le premier volet, disons, de cette démarche. Et la revue permet ce genre de travail, à la fois apporter un savoir, une connaissance, l'histoire des bibliothèques publiques, et à la fois rendre compte des réalités et des démarches qui existent sur le terrain et de les faire connaître.
Et justement, ce qui est intéressant dans l'ouvrage et le fait d'avoir réuni ces différents articles, c'est justement de montrer que les bibliothèques populaires émanent d'un souci aussi contextuel de l'époque de la fin du 19e siècle, où il y avait aussi parallèlement une réflexion sur le temps de travail, sur l'éducation des classes populaires, et donc que tout ça était imbriqué. C'est assez bien décrit et expliqué dans notamment l'article de Bruno Lizen, mais aussi dans les autres articles.
C'est vraiment dans l'esprit du contexte. Donc c'est vrai que si on veut que les bibliothèques soient un outil pour le peuple, il faut évidemment que le peuple aille dans les bibliothèques. Or, nous sommes en 1830, enfin la Belgique est née d'une révolution en 1830. Quand il y a la circulaire Van den Perenboom, eh bien nous sommes en 1862, donc ça fait 30 ans, disons, que la Belgique est indépendante et qu'elle s'organise comme une nation moderne à l'époque. L'école n'est pas obligatoire, mais l'instruction publique est vraiment un fer de lance important de la classe bourgeoise pour éviter que le peuple et que les travailleurs se révoltent contre leur situation, qui était une exploitation très dure, avec des longues heures de travail. On travaille entre 60 et 70 heures par semaine, avec des conditions de vie très difficiles. On verra que ça aura un impact, avec évidemment des petits salaires, donc pas question pour eux de dépenser un cent pour aller à la bibliothèque, évidemment, puisque c'est surtout se nourrir, se loger, se vêtir, se soigner un minimum, qui est l'essentiel des dépenses d'un ménage. Et donc l'instruction publique va de pair vraiment avec cette idée que la classe ouvrière a besoin d'instruction, et on va développer des écoles primaires d'abord pour apprendre à lire et écrire aux enfants, et aussi beaucoup d'écoles d'adultes pour que les parents puissent aussi apprendre à lire et à écrire, mais aussi apprendre un métier. Et à chaque fois, on voit qu'il y a les autorités communales qui pensent adjoindre une bibliothèque, pour que, en fait, l'apprentissage appris dans les classes se prolonge par une soif de savoir, une soif de connaissance. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs à la bibliothèque à Saint-Josse, à la commune de Saint-Josse. C'est une commune bourgeoise à l'époque, avec un gros quartier populaire dans le bassin de la Seine et le bassin du Malbec, avec énormément d'impasses, avec énormément de populations ouvrières. Et il y a beaucoup de petits artisans, il y a évidemment des fonctionnaires qui habitent dans la commune. C'est quand même une commune qui se développe très fort au 19e siècle. D'ailleurs, ça se voit dans l'architecture, dans la structure des rues et dans l'architecture des maisons. Et donc, là, la commune décide que à une école, une nouvelle école qui s'installe ici, rue de la Charité, rue du Chalet, il faut adjoindre une bibliothèque. Et ça, j'ai découvert vraiment par hasard, en allant voir Dominique, qui m'a tout de suite dit: Marie-Thérèse, nous avons la plus ancienne bibliothèque publique communale de Belgique. J'étais complètement abasourdi. Je me dis, comment est-ce possible? Bon, on peut un peu nuancer ça maintenant, puisqu'on a fait un peu un travail plus en finesse. Mais c'est presque la deuxième bibliothèque publique lancée par la commune en 1858, 4 ans avant la circulaire Van den Perenboom. Et donc, on a ici à Saint-Josse une très ancienne bibliothèque qui fonctionne toujours. Et donc, c'est un peu cette histoire-là que, avec l'accord de Dominique et avec la participation de Dominique, on a essayé de retracer. C'est vrai que la bibliothèque publique, si les communes investissent de l'argent dans la bibliothèque, c'est aussi pour que, parce que les gens n'ont pas les moyens de payer le livre est rare, le livre est cher, et des ouvrages de qualité, évidemment, des encyclopédies, des dictionnaires, tout ça, ça coûte assez cher, et le petit peuple n'a pas les moyens. Et donc, l'idée, c'est vraiment accompagner l'instruction publique. Mais après, autour de la loi Van der Velde de 1921, donc je fais un saut de près de 50 ans, Jules Destrée, pardon, c'est pas la loi Van der Velde, c'est Jules Destrée, lui, il est un grand fervent des bibliothèques pour la classe ouvrière. Il veut que dans chaque maison du peuple, il y ait une bibliothèque, que ce soit une armoire fermée avec une cinquantaine de titres bien sélectionnés où les travailleurs puissent venir dans la maison du peuple, rechercher les livres et se nourrir de la littérature et du savoir. Il faut que la classe ouvrière apprenne. Et donc Jules Destrée, depuis la fin du 19e siècle, plaide pour que toutes les maisons du peuple qui se multiplient à ce moment-là soit vecteur de la lecture et chaque fois une bibliothèque. On pourrait imaginer un peu une petite bibliothèque comme ça dans toutes les salles de café des maisons du peuple. Et à ce moment-là, la bourgeoisie commence à réfléchir aussi en disant, mais on arrive à la loi des 8 heures en 1921, les gens vont travailler 48 heures et non plus 60 heures ou 70 heures. Il y a donc un temps libéré. Il y a du temps pour soi. Hein, c'est le célèbre slogan, les 3-8. 8 heures de travail, 8 heures de loisirs, 8 heures de repos. Alors, le repos, bon, c'est important. Le loisir, comment est-ce que la classe ouvrière, qui va avoir ce temps libre tout à fait dégagé du travail, des contraintes du travail, va-t-il l'occuper? Alors, les femmes, on sait très bien, elles vont s'occuper des enfants, du ménage. Hein. C'est pas tellement les femmes qui sont... On se préoccupe pas trop du temps de loisir des femmes. Elles ont gagné du temps de l'usine, elles vont le consacrer à leurs enfants, et à leur ménage, et à leur mari. Par contre, du côté des hommes, est-ce qu'ils vont passer ces 8 heures de loisir dans les cabarets, dans les cafés? Est-ce qu'ils vont dépenser tout cet argent, l'argent péniblement gagné? Et donc, il y a toute une réflexion de morale, finalement, qui accompagne cette réflexion sur les loisirs. Et alors, la bibliothèque publique devient vraiment un outil aussi de moralisation de la classe ouvrière. Il s'agit d'accompagner, et d'ailleurs, il y a des citations que j'ai retrouvées dans le conseil communal de Saint-Josse. En 1921, ils disent, il faut que la bibliothèque soit aussi un lieu ouvert aux ouvriers, pour que l'ouvrier, après le travail, puisse venir se ressourcer, venir prendre du bon temps et apprendre à être heureux, à lire des livres et à se former et s'informer. Donc il y a aussi une volonté quelque part de développer un service pour que les loisirs des travailleurs et des adultes, en tout cas, soient, entre guillemets, occupés de manière intelligente.
Et justement, du coup, ça impacte le choix des ouvrages qui sont proposés. On ne trouve pas de tout dans ces bibliothèques, ou bien est-ce qu'il y a...
Alors là, c'est encore une autre histoire. Mais je voudrais quand même terminer sur les enfants. L'école est obligatoire à partir de 1914. Alors, si le loisir des ouvriers pose problème et on essaye d'occuper leurs loisirs par des salles de lecture et etc. Pour les enfants, ils sont à l'école, tous les enfants sont à l'école à partir de, allez, disons, 1910, 18-19, à la fin, après la Première Guerre mondiale. Mais ils ont aussi besoin de lire, ils ont aussi besoin du livre pour compléter leur école. Et donc, on verra, à la Bibliothèque communale de Saint-Josse, ouvrir deux plages de lecture pour les enfants. Et ça, c'est aussi la preuve que la bibliothèque a dû tout le temps s'adapter à son public. Puisque le public cible, c'était d'abord l'apprentissage et l'instruction. Ensuite, ça a été les loisirs des travailleurs et la moralisation de la classe ouvrière. Et puis, innovation après 1921, on voit que la bibliothèque s'ouvre aux enfants, puisque les enfants sont tous à l'école et qu'ils doivent apprendre à lire et à écrire, et qu'ils doivent avoir des livres pour pouvoir apprendre à lire et à écrire. Et ainsi de suite. On peut faire trois petits points et l'histoire de la bibliothèque continue.
Et pour revenir à quelque chose que vous avez dit, c'est par rapport aux femmes. Est-ce qu'on a une analyse genrée, comme on dit, de la fréquentation des bibliothèques par les hommes et les femmes?
Ce volet-là n'a pas encore du tout été étudié. C'est une première esquisse.
Oui.
Je peux citer... Dans une structure, pour vous donner un avis, pour vous donner une idée, entre 1900 et 1914, il y a une commission d'évaluation, de consultation, si vous voulez, de la lecture publique qui est constituée à Saint-Josse. Je parle que de Saint-Josse ici. Hein. Et là-dedans, il y a deux femmes. Il y a une régente qui est donc fonctionnaire à la commune, qui donne cours. Et qui donc est intéressée par suivre et par réfléchir à quoi doit, comment il faut composer le catalogue de la bibliothèque. Et puis il y a une personne dont je n'ai pas très bien su qui c'est encore, il faut que je continue à chercher, mais qui serait une personne littéraire, qui, une écrivaine, qui participe également à cette commission d'évaluation des collections. Et après 1921, il y a deux femmes élues au conseil communal qui vont. Il y a une femme élue au conseil communal comme conseillère communale après les élections de 21, qui va être aussi membre de cette commission. Donc, je peux dire qu'il y a un souci d'intégrer quand même les femmes dans tout ce qui se met en place quand la politique permet le suffrage des femmes. Au niveau communal, en tout cas en 1921. Par contre, pour le catalogue, je crois que Dominique est plus habilité que moi pour expliquer un peu tout ça, mais il faut bien savoir que c'est par la donation, le budget de la commune attribué à la bibliothèque de Saint-Josse, c'est 100 francs par an. 100 francs par an à l'époque, c'est pas grand, enfin, c'est un budget, mais c'est pas énorme évidemment pour acheter des livres. Donc, ce que la commune fait, ce que le bourgmestre fait, c'est d'écrire, et ce que le bibliothécaire en chef fait, qui est l'instituteur en chef de la commune, c'est d'écrire à tous les ministres, c'est d'essayer d'avoir des donations. Et j'ai suivi un petit peu au 19e siècle qui donnait, et on voit que c'est des professeurs d'université qui donnent, on voit que c'est des auteurs, littérateurs, habitant la commune, des écrivains qui se disent « Ah ben tiens, moi je vais donner mes ouvrages à la bibliothèque ». On voit que c'est le ministère aussi qui donne toutes les collections qu'il subventionne par ailleurs ou qu'il a lui-même dans ses attributions, etc. Il y a des donations privées énormes, 80 livres, 100 livres par lot, quoi. Donc la bibliothèque, elle est plutôt éclectique et elle est plutôt liée... À l'intérêt que les donateurs ont de céder leurs ouvrages. Alors la bibliothèque de Saint-Josse a une caractéristique aussi très intéressante. Dès 1860, dès le début, dès le premier catalogue, il y a un souci au niveau du conseil communal pour qu'il y ait des ouvrages en flamand et en français. Évidemment, la majorité des ouvrages sont en français, deux tiers, mais il y a un tiers d'ouvrages en néerlandais. Et le principe, et c'est vraiment argumenté au sein du conseil communal, le monde populaire à Saint-Josse en 1860 est majoritairement d'origine flamande, parle le bruxellois ou le flamand. Il est donc normal que si on veut s'adresser au monde populaire, il faut avoir des ouvrages dans la langue comprise par le peuple, et donc c'est le néerlandais. Et alors on voit qu'il y a énormément d'œuvres de la littérature flamande, les grandes chansons de gestes, la poésie, etc., en flamand. Et donc on voit là qu'il y a quand même un petit souci pour tenir compte du public auquel ils veulent s'adresser en priorité. Donc les conseillers, il y a deux conseillers communaux qui sont vraiment attentifs, et le directeur, le premier directeur de la bibliothèque, qui est l'instituteur en chef de la commune de Saint-Josse, est également très attentif à avoir des ouvrages en néerlandais dans sa bibliothèque.
Et du coup, Dominique Denis, vous êtes arrivé il y a 30 ans à la bibliothèque de Saint-Josse, si je ne me trompe
pas.
Oui,
34 ans, presque 35. Et effectivement, je suis dans une configuration tout à fait particulière, parce que j'ai été un très jeune bibliothécaire en chef. À l'époque, il fallait au moins avoir 50 ans. Donc moi, j'étais encore assez jeune. Et j'ai rencontré l'équipe qui était sur place à ce moment-là, qui, eux, étaient une ancienne équipe. Ce qui fait que j'ai travaillé pendant plusieurs années avec des personnes qui avaient été engagées en 1953, donc rendez-vous compte, qui avaient connu les anciens locaux. Donc, moi, je n'en ai connu que deux. Quand je suis arrivé, la bibliothèque se trouvait au coin de la rue de l'Alliance et de la rue Skelkin, donc à l'endroit où se trouve actuellement le centre culturel arabe. Et en 2004, nous avons déménagé pour nous trouver où nous sommes maintenant encore, aux deux rues de la Limite. Et donc, mais par contre, je suis parvenu à retrouver des traces des anciens lieux. Alors, Marie-Thérèse, par ses recherches, m'a aidé énormément, puisqu'elle elle m'a montré la preuve que ce dont je me doutais était exact, à savoir que ça a débuté rue du Chalet. Je n'en avais aucune preuve, mais comme elle a fait un travail de patiente fourmi et qu'il a épluché tous les bulletins communaux et bien d'autres ressources encore, je suis parvenu à avoir la certitude que tout a commencé là. Mais très rapidement, la bibliothèque a déménagé dans une autre école qui avait été créée un peu plus tard, qui est l'école des Tournesols, qui se trouve rue Saint-François. Et effectivement, nous avons encore dans notre réserve d'ouvrages anciens des livres portant le cachet donc de la rue Saint-François, donc de cette école. Et il se trouve qu'il y a quelques années, cette école a été rénovée complètement. Très souvent, les bibliothèques se trouvaient dans les greniers, en tout cas dans les parties supérieures, au-dessus des classes. Et donc, j'ai pu voir l'endroit qui avait été restauré, donc l'endroit où se trouvait la fameuse bibliothèque, où se trouvaient rangés les livres. Et donc, j'ai fait quelques photos à l'époque, ce qui m'a permis en même temps de récupérer des anciens catalogues que je n'avais pas. Par un hasard incroyable, ces catalogues étaient restés là-bas. Et donc, quand je suis allé prendre des photos et que j'ai dit quelle était ma fonction, une personne a dit « Ah, mais vous savez, nous avons encore des choses qui datent de la bibliothèque qui n'ont jamais été prises. » Donc, moi, du coup, évidemment, je me suis précipité. Et donc, j'ai emporté ces précieux catalogues qui étaient vraiment la trace de la façon dont on travaillait au départ. Effectivement, on parle d'évolution. Les choses ont énormément évolué. Par exemple, quand je suis arrivé avec l'épouse de l'ancien bourgmestre Jean de Manet, il n'y avait pas de bibliothécaire à temps plein. C'était toutes des fonctions complémentaires, et en général, c'était des fonctions qui étaient occupées par des professeurs, des directeurs d'école, voire d'autres bibliothécaires, qui travaillait dans des institutions spécialisées. Donc c'est ainsi que j'avais un directeur d'école d'une école de Skarbek, un autre qui était professeur et qui est devenu directeur par après, et également une personne qui était bibliothécaire à l'INSAS et une autre qui était bibliothécaire à l'école de vétérinaire. Donc il y avait déjà, d'une certaine façon, une professionnalisation, mais le métier du bibliothécaire à temps plein n'existait pas. Il a commencé à exister à Saint-Josse au moment où nous sommes arrivés. C'est à ce moment-là qu'il y avait vraiment une personne qui pouvait s'occuper à temps plein de la bibliothèque. Donc, l'ancien directeur de la bibliothèque était professeur de dessin à l'académie et donc il travaillait 12 heures par semaine, il consacrait 12 heures par semaine à la bibliothèque. Ce qui était en fait le nombre d'heures d'ouverture, en fait c'était des ouvertures en soirée. Et donc la bibliothèque à cette époque-là était ouverte 12 heures par semaine. Et donc après ça a évolué, donc maintenant nous en sommes à 26 heures. Nous maintenons évidemment des temps libres le matin pour pouvoir accueillir des classes, etc. etc. Et c'est vrai que les missions des bibliothèques ont terriblement évolué. Et on a tenu compte, et ça c'est très très vrai, on a tenu compte dès le départ de la situation de terrain. Donc là, je reviens à ces livres en néerlandais. Malheureusement, ça n'est plus le cas, parce que comme vous savez, entre-temps, tout a été séparé. Nous dépendons maintenant de pouvoirs organisateurs différents en ce qui concerne les communautés. Et donc, par contre, nous avons la chance d'avoir dans les mêmes locaux la bibliothèque néerlandophone. Et nous, pour nous, ça représente vraiment un atout important. Nous travaillons ensemble, nous organisons des choses ensemble. C'est une bibliothèque qui a été créée il y a un peu plus de 10 ans. Donc avant, il n'y avait pas de bibliothèque néerlandophone sur le territoire de Saint-Josse. Et donc, moi, elle n'était même pas créée, que j'avais déjà dans mes dossiers des projets pour faire des choses ensemble, pour faire des heures du conte bilingue, pour organiser des soirées ensemble, comme la fameuse nocturne des bibliothèques qui a lieu donc en novembre, le dernier vendredi de novembre chaque année. Donc voilà, tout ça fait partie de l'évolution, mais il est vrai qu'au départ, quand je suis arrivé, bon, la section jeunesse n'était pas fort garnie. Donc il a fallu évoluer, notamment avec les lois. Finalement, si la bibliothèque a déménagé rue Skelkin, c'est parce que on avait décrété le libre accès. Donc il n'était plus question d'aller demander sur catalogue comme c'était le cas. Donc ce qui se passait à la bibliothèque rue Saint-François, c'est qu'il y avait des énormes étagères qui allaient jusqu'au plafond. Donc il fallait se percher sur des échelles pour aller chercher les livres. Bien évidemment, on ne demandait pas aux lecteurs de faire ça. C'était les bibliothécaires qui s'en chargeaient. Et donc les lecteurs devaient choisir sur des catalogues, ces grands catalogues par ordre alphabétique d'auteurs que j'ai récupéré, quelques-uns en tout cas, et que je possède encore. D'ailleurs, on les a montrés lors de la fête des 100 ans de la loi d'Estrée. Mais donc, c'est incroyable de se dire que la loi d'Estrée a 100 ans, la bibliothèque de Saint-Josse en a 173. Donc voilà, c'est dire que, comme l'a bien souligné Marie-Thérèse, bien avant que M. Van Perrebaud n'y songe, mais à Saint-Josse, ça se faisait déjà. Saint-Josse est coutumière de ce genre de choses, hein, le premier jardin botanique, le premier observatoire, les premiers cours d'académie de dessin, tout ça c'est à Saint-Josse. Donc Saint-Josse a toujours été une commune très active et très active socialement, en tenant compte justement des intérêts de la population et vouloir aider au maximum les gens sur son territoire. Donc alors quand je disais que ça s'est professionnalisé, il s'est en suivi de ça que les missions ont évolué. On a de plus en plus cadré les missions des bibliothèques. Une bibliothèque est passée d'un endroit où on venait emprunter des livres à un espace tout à fait différent. Et quand je parle de ça, je parle de ça bien avant la loi de 2009 dont ont émergé tous les plans quinquennaux. Donc déjà, les missions étaient de vraiment s'inscrire dans le tissu socioculturel de la commune. Alors Saint-Josse est une commune pleine de particularités, 153 nationalités, donc voilà, des personnes qui sont très souvent des primo-arrivantes. Il y a plus de 30% de flux migratoires à Saint-Josse chaque année. Donc on a affaire chaque fois à d'autres populations, à d'autres personnes qui viennent. Et donc les compteurs sont remis à zéro. On a un rôle plus que de culture, on a un rôle d'instruction publique, comme on disait dans le temps. C'est de l'enseignement, c'est permettre à des enfants de pouvoir avoir des livres. ils n'ont pas la possibilité autrement d'en avoir, et c'est avoir affaire à une population qui ne connaissent pas la langue au départ. Donc c'est très compliqué pour ces personnes d'entrer dans une bibliothèque. Pousser la porte d'une bibliothèque, si vous n'êtes même pas capable de lire les panneaux de renseignement, etc., il faut un culot extraordinaire, qu'on soit adulte ou enfant. Donc ces personnes, il faut les toucher. Comment peut-on les toucher ? Bon, évidemment, pour les enfants, c'est plus facile via les écoles. Pour les parents, il y a à Saint-Josse énormément d'associations socioculturelles, donc, qui donnent des cours d'alphabétisation. Et donc, nous avons énormément de partenaires. L'année passée, évidemment, qui était la deuxième année catastrophique due à la crise sanitaire, on est en train de faire le rapport, donc j'ai les chiffres bien en tête. Bon, on s'est rendu compte que sur tous les jours ouvrables en 2021, nous sommes restés un tiers des jours fermés, inaccessibles au public. Donc nous avons perdu tout ce volet de mission. Maintenant on a mis l'accent sur contacter le public éloigné de la lecture. Donc ça peut être pour des tas de raisons, ça peut être des enfants qui sont dans des écoles spécialisées, ça peut être des personnes justement qui n'ont pas accès à la langue et qui suivent des cours d'alphabétisation. Enfin, il y a plein de façons de les contacter, mais c'est à nous de faire l'effort, parce que d'eux-mêmes, ils ne franchiront pas la porte de la bibliothèque. Donc c'est déjà quelque chose dont il était question avec le décret de 78 qui lui-même a été modifié, enfin en tout cas qui a évolué via l'arrêté royal de 1995. Et donc, moi j'étais vraiment dans cette mouvance d'évolution, de changement du métier, mais un changement tout à fait favorable et qui répondait aux besoins de la population. Et donc, nous avons commencé à organiser des animations aussi, parce que voilà, la bibliothèque n'est plus un lieu où l'on vient que pour les livres. Maintenant, j'ai des lecteurs qui viennent, qui ne sont à la limite pas des lecteurs, qui vont utiliser l'espace informatique, qui vont venir dans la salle de lecture et travailler sur un laptop. Donc voilà, c'est autre chose. Ça ne tourne plus uniquement autour du livre. Bien sûr, le livre est toujours au centre des préoccupations, et l'idée est de donner envie de lire et de s'informer, de s'intéresser au monde, mais ça n'est plus que ça. Donc ça, au fur et à mesure de l'évolution des décrets et des lois, on s'est de plus en plus tourné vers ces missions, ce qu'on appelle maintenant la transversalité, c'est-à-dire faire en sorte que d'un projet, on puisse toucher plusieurs partenaires. Et on parlait tout à l'heure de la ruelle. Eh bien, la ruelle, effectivement, faisait une bibliothèque de rue, et j'y ai participé. Justement, je venais avec les livres de la bibliothèque. On s'est installé place Bossuet, donc à la sortie de l'école La Sagesse, et donc on attendait, les enfants étaient sur la place, et puis ils étaient intéressés, ils venaient voir, on ouvrait les livres, on regardait. Donc voilà, ça se faisait un mardi par semaine, et donc voilà, donc c'est déjà à ce moment-là, on était déjà dans cette démarche d'aller hors les murs, d'aller vers les gens si on ne pouvait pas les toucher d'une autre façon. Et donc, rien que l'année passée, nous avons travaillé avec 33 partenaires. Alors, ça peut paraître beaucoup. Il faut savoir qu'on a eu, à l'époque où tout fonctionnait bien, 77 projets différents avec des partenaires. Donc là, du coup, ça s'est un petit peu restreint. À un certain moment, on a même cessé d'être en contact avec les écoles, pour des raisons de sécurité. Les écoles n'avaient plus le droit de faire venir des classes chez nous. Nous n'avions plus le droit d'envoyer nos conteuses et nos bibliothécaires dans les écoles. Bon, tout ça, évidemment, nous a fait énormément de tort. On sait très bien que cette période de particulière a été une catastrophe, que ce soit du point de vue culturel, du point de vue enseignement. Enfin, voilà, on sait très bien. On n'a pas encore mesuré ce que ce désastre va occasionner plus tard, mais j'ai l'impression que c'est quand même une période qui va laisser de graves séquelles. Et donc, voilà, par exemple, il y a un projet que nous faisons pour l'instant, c'est le projet LIRA 2. Alors, c'est un projet qui existe déjà depuis de nombreuses années. Nous avions déjà travaillé avec cette association au départ. L'association qui est à l'origine du projet s'appelle Âge et Transmission. Et nous avions déjà travaillé avec eux, notamment en faisant, je ne sais plus exactement le titre, c'était mémoire, passeur de mémoire, enfin je ne sais plus. En tout cas, l'idée c'était de réunir autour d'une table des personnes de source d'origine belge, âgées, et des personnes étant dans des groupes d'alphabétisation, mais déjà un petit peu avancées, et donc d'échanger, de raconter des histoires de vie, et donc chacun apprenait un petit peu sur l'autre, et l'idée était en fin de compte d'en faire un petit ouvrage, enfin une petite brochure où tous ces textes se retrouvaient. Et par après, AG Transmission nous a recontactés pour le projet LIRA 2 qui existait déjà dans d'autres bibliothèques, et comme nous avions eu une expérience concluante précédemment, ils sont revenus vers nous, et donc LIRA 2 en fait est un projet qui fait de nouveau se rencontrer des personnes retraitées et des personnes qui suivent des cours d'alphabétisation. Donc là, du coup, nous avons un partenariat à 3 et même à 4, puisque nous avons 2 associations qui y ont participé. Nous avons, d'une part, évidemment, AG Transmission, la bibliothèque, et ensuite, nous travaillons avec 2 associations, c'est Avenir et La Barricade. Pour l'instant, il n'y a plus que La Barricade, et encore une fois, LIRA 2 a été était un projet un peu tronqué l'année passée du fait que il y a eu des séances qui n'ont pas pu se faire, certainement pas quand nous étions fermés, et même par après il a fallu y aller vraiment progressivement. Ceci dit, le projet a redémarré cette année, nous avons fait déjà une séance et donc j'espère bien que ça continuera. Et
concrètement, donc, c'est une personne âgée qui vient lire un livre avec une personne qui
alors,
ne sait
non,
ni lire
non.
ni écrire.
Alors c'est mieux que ça, c'est mieux que ça, et c'est pour ça qu'on a défini carrément les noms, parce que sinon on pouvait être dans l'idée de l'apprenante et le voilà, on voulait pas qu'il y ait ce genre de rapport, pour la bonne raison que ces retraités finalement rencontrent des personnes avec lesquelles elles n'auraient jamais pu parler autrement, donc elles apprennent sur leur vie, donc finalement le livre est un vecteur d'échange, on parle de sa vie autour du livre, et donc en fait les personnes donc, qui suivent les cours d'alphabétisation sont appelées les lectrices, parce que c'est elles qui lisent les livres, et non pas la personne qui vient pour l'accompagner. D'ailleurs ces personnes s'appellent elles les accompagnatrices. Donc du coup, on n'est pas dans cette relation de prof et tout. On a mis clairement les choses. Ces personnes suivent des cours d'alphabétisation. Quand on est dans l'enceinte de la bibliothèque, il n'est pas question de ça. Il s'agit d'un moment de plaisir, d'un moment de loisir, d'ailleurs, que j'inaugure moi-même chaque fois en lisant un conte pour expliquer que finalement, les contes, je choisis des livres où il y a toujours quelque chose qui s'adresse aux adultes, parce que les livres pour enfants, maintenant ce qu'on appelle les livres pour enfants, sont des livres extraordinaires, avec des morales, avec des explications, et donc il n'y a pas de honte finalement à lire ce genre de livres, ce sont des livres de qualité et qui amènent des messages qui sont très très intéressants et qu'on peut capter à tout âge. Donc ça c'est pour cette... ça. Alors nous avons également la chance, depuis que nous sommes... Pour vous situer un petit peu, je suis arrivé en 88, on a déjà des traces de mon passage avant, mais disons officiellement, bibliothécaire en chef à partir de 91, et donc j'y étais déjà vers 88-89, et parce que la personne qui est arrivée avec moi, donc Madame de Lépine, est partie s'occuper du musée Charlier, et moi je suis resté en poste comme directeur à la bibliothèque. Donc là, les locaux, c'était des locaux hyper années 70, avec une moquette orange, mais là, on avait respecté enfin cette notion de libre accès, donc les rayonnages ne pouvaient pas excéder à une certaine hauteur, de façon à ce qu'on ait accès à tout, et donc les lecteurs pouvaient enfin se promener dans les rayons, choisir les livres, et non plus passer par un catalogue comme ça se faisait avant. Et donc ensuite, nous avons déménagé en 2004, cette bibliothèque, j'ai une relation vraiment très particulière avec cette bibliothèque parce qu'en fait, j'en ai fait ce que je voulais. L'ancien bourgmestre m'a fait entièrement confiance. Il m'a dit, écoute, c'est ton lieu, tu en fais ce que tu veux. Donc, du coup, même la couleur des murs, c'est moi qui l'ai choisi. Il y a un très agréable jardin. C'est mon épouse qui est experte en plantes, qui a dit quelle plante devait se trouver à quel endroit. Enfin, voilà. Donc, c'est vraiment... Ma seconde maison et j'ai vraiment une relation très, très particulière avec cette bibliothèque et j'ai la chance d'être entouré maintenant d'une équipe jeune, évidemment. Et ça, c'est nécessaire pour quelqu'un de mon âge parce que ce sont des gens qui sont formés et qui sont au fait de toutes les nouvelles missions. Donc, c'est la nouvelle génération, contrairement à certains bibliothécaires qui sont un petit peu méfiants et qui disent « oui, mais enfin, ils sont en train de tout changer ». Moi, au contraire, je laisse faire parce que c'est eux, la bibliothèque de demain, c'est eux qui sont le plus à même de pouvoir continuer cette magnifique aventure. Et donc, c'est très bien. Petit à petit, ils prennent les choses en main et ça me rassure parce que ça me permet... Bon, évidemment, à un moment donné, il va falloir que j'arrête, même si ça ne me fait pas spécialement plaisir. Ce sera en fin 2023. Mais je sais déjà dès maintenant qui sera mon remplaçant. Je sais que cette équipe est déjà capable de fonctionner sans moi. Et ça, c'est quelque chose d'excessivement précieux et d'excessivement rassurant pour moi, évidemment.
J'observe quand je vois votre travail, pas au quotidien, parce que je ne suis pas là tous les jours, mais... Finalement, être bibliothèque aujourd'hui, c'est beaucoup plus que simplement cataloguer les livres ou les choisir. J'ai l'impression que c'est devenu un métier multidisciplinaire. Il faut être conteur, il faut être animateur ou animatrice.
Tout à fait, oui, il faut faire tout ça et c'est agréable. C'est ça qui fait le plaisir de la variété. Maintenant, dans mon équipe, chacune et chacun a sa spécificité. Donc j'ai quelqu'un qui est spécialiste des auteurs belges et qui est de la littérature française en général et donc qui organise des déjeuners littéraires une fois par mois le samedi. J'ai une équipe, une toute jeune équipe en section jeunesse. Donc, ils sont vraiment spécialisés dans tous ces livres. Bon, moi, je ne peux pas tout connaître. Moi, les mangas, par exemple, ben voilà, je dois bien admettre que je dois me reposer sur le choix d'autres personnes. Je ne peux pas me veiller à tout, et puis surtout, je ne peux pas avoir connaissance de tout. Donc, là, je sais que je peux compter sur elle, et surtout sur le projet qui est le plus intéressant, enfin, en tout cas, un des fers de lance de la bibliothèque, c'est la fameuse bibliothèque en tout genre. D'ailleurs, j'étais déjà venu ici pour en parler il y a quelques mois. Donc, cette bibliothèque qui est ce fonds spécial, maintenant, c'est un fonds qui a plus de 1500 livres, donc rendez-vous compte, 1500 livres sur une collection totale de 37 500 ouvrages. Et donc, ce sont des livres qui abordent le thème de la lutte contre les discriminations en général, mais surtout liées au genre et donc à la déconstruction des stéréotypes. Donc nous avons 1500 livres et mon équipe est toujours aussi motivée. D'ailleurs, c'est l'actuel responsable de la section jeunesse qui a rédigé une espèce de brochure qui est un petit peu... une aide clé en main pour une bibliothèque qui voudrait créer un fonds similaire en disant, voilà, si vous voulez créer ça, commencez au moins par avoir ces ouvrages de base qui sont des incontournables. Et donc, quand je dis que cette bibliothèque en tout genre est destinée à tous, nous avons énormément de livres pour les enfants parce que les bonnes pratiques, ça prenne très jeune. Donc, on raconte des histoires où la femme ou l'enfant n'a pas toujours, quand elle est fille, n'a pas toujours ces rôles d'arrière-plan qu'on pouvait trouver dans les ouvrages avant. Donc bon, ça c'est une parenthèse, mais donc c'est pour dire que c'est un projet qui me tient fort à cœur et donc je suis très content d'avoir cette équipe qui est à fond derrière moi, qui garde l'esprit que j'ai voulu instaurer à cette bibliothèque, et surtout l'accueil. L'accueil, pour moi, l'accueil, c'est la chose la plus importante. Il faut que nous ne sommes pas des bibliothécaires assis. Nous sommes des bibliothécaires qui nous levons, qui accompagnons dans les rayons. Moi, ma place, c'est pareil. Les rapports, c'est très bien, mais moi, ma place est encore actuellement... Tant que je peux le faire, c'est me trouver dans les rayons avec les lectrices et les lecteurs pour parler de mon enthousiasme pour les guider, pour les inciter à revenir, à tester des livres, etc. Ça, c'est la vraie vocation de bibliothécaire.
Mais par rapport au public, justement, en 1858-59, quand la bibliothèque s'ouvre, elle est gratuite.
Oui, elle était.
Et donc, gratuite. C'est aussi pour favoriser l'accès aux livres et l'emprunt du livre. Donc, on peut partir. Il y a un règlement en 1859 qui est voté par le conseil communal et qui dit chaque personne peut venir, elle doit s'inscrire. C'est gratuit pour le lecteur et la location est gratuite aussi. On peut prendre le livre chez soi pendant 15 jours avec un renouvellement d'un mois. Donc, cette gratuité, cet accès
ça
à tous,
c'est toujours.
C'est aussi un combat que vous avez mené.
Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Ça, on l'amène. Alors, oui, parce qu'à un moment donné, à partir du moment où il y a eu cette fameuse notion de réseau, c'est-à-dire quand les catalogues ont été informatisés et qu'il y a eu le fameux logiciel Vubis, donc, qui est le logiciel qui nous sert pour faire des recherches catalographiques, pour effectuer les prêts, etc. À partir du moment où ça a été installé, on s'est dit, voilà, maintenant les bibliothèques ne sont plus des îles isolées, nous allons travailler en réseau, c'est-à-dire que nous aurons accès également via ce catalogue aux collections des autres bibliothèques et que nous pourrons, si un lecteur vient chez nous et nous dit, ben voilà, est-ce que vous possédez ce livre? Et on lui dit, bon, désolé, pour l'instant, il est en prêt, mais vous pouvez le trouver dans telle bibliothèque. Et à ce moment-là, on donne tous les renseignements, les heures d'ouverture, les numéros de téléphone. Enfin bref, on fait en sorte que quand il sort de la bibliothèque, où il possède le livre, où il a une occasion d'avoir le livre dans les 20 minutes, puisqu'on sait qu'avec les transports en commun, on peut aller dans n'importe quelle bibliothèque. Donc il y a une carte unique pour tout le réseau des bibliothèques francophones de Bruxelles capitale. Le seul problème, c'est que dans un souci d'homogénéité, on a dit, voilà, il faudrait essayer de faire en sorte d'avoir un maximum de pratiques communes. Bon, pour les heures d'ouverture, c'est très compliqué, c'est à voir. Il est évident qu'une bibliothèque que la bibliothèque centrale a plus d'heures d'ouverture qu'une bibliothèque locale comme la nôtre, parce qu'elle dispose de plus de personnel, de plus de locaux, etc. Donc, nous, en ce qui nous concerne, les autres heures qui ne sont pas consacrées aux prêts, ben, servent pour accueillir des classes, pour faire des animations, etc., etc. Et nous avons créé maintenant des locaux. Donc, l'année passée, nous avons fait en sorte de réaménager complètement les sous-sols. Et donc, c'était déjà un endroit où on effectuait quelques animations. Maintenant, c'est devenu un local qui sert à la fois pour faire des heures des comptes, à la fois pour faire des bricolages, à la fois pour faire des ateliers d'écriture. Et nous avons une partie informatique. Donc là, c'est un travail avec l'ARC. Et donc là, nous avons des informaticiens qui viennent aider les gens. Et donc, nous avons également à la bibliothèque un écrivain public qui vient tous les mardis. Et depuis cette année, nous avons un informaticien public. Donc, c'est une personne, fin d'année passée déjà, c'est une personne donc qui fait le même travail que l'écrivain public, mais pour l'informatique, donc pour aider les personnes qui ont des difficultés. Et donc, cette personne vient tous les lundis de 15h à 18h. Donc, voilà, ce sont toutes ces missions. Nous avons également des locaux qui nous permettent de faire des expositions. Donc, on a des expositions de peinture, de dessin, de photos qui se poursuivent. Il y en a une pour l'instant. Donc, là aussi, nous avons pu recommencer. On essaye, on avance. En fait, c'est un combat journalier. C'est voir comment on peut respecter toutes les mesures sanitaires en échappant à un côté trop répressif qui pourrait nous faire perdre des lecteurs. C'est clair que chez nous, si on demande le CST, on va perdre beaucoup de monde. Donc voilà. Donc, mais on regarde un petit peu quelles sont les réglementations, et tant qu'on est en dessous d'un certain nombre de lecteurs, etc., on arrive à passer entre les mailles du filet et faire en sorte donc que la bibliothèque continue à être un lieu ouvert tant qu'on nous le permet. Je pense que j'ai bon espoir que cette année on ne doive plus fermer, parce que justement nous respectons toutes ces mesures avec des plexis dans les salles de lecture qui isolent les lecteurs des uns des autres, avec, et là évidemment on est très strict, l'obligation de porter le masque. Nous avons également les fameux détecteurs CO2 là qui nous permettent de voir si on est en train de saturer. Donc nous ventilons tout le temps les les locaux. Bon, là maintenant, comme il fait très froid, c'est un petit peu problématique. Il faut jouer un peu, parce que bon, c'est pas la peine d'éviter le Covid aux gens si c'est pour leur flanquer une bronchite. Donc il faut un petit peu, il faut un petit peu voir. Mais bon, je ne sais pas. Moi, à partir du moment où on me fait parler de ma bibliothèque, je pars sur une ligne. Je n'ai plus.
Voilà.
De... Vous voilà. Pouvez me recadrer si vous voulez, parce que
malheureusement, je pense qu'on arrive presque à la fin de l'émission. Vous avez répondu de toute façon à toutes les questions que j'avais par rapport à cette très belle revue que j'ai lue avec beaucoup d'attention. Marie-Thérèse Kounen,
Oui, moi je voudrais dire que quand on est parti de l'idée d'une centenaire de la loi d'Estrée qui officialise quelque part le réseau de la lecture publique, mais qui commence en fait, qui débute vraiment la constitution d'un réseau de bibliothèques publiques. Mais quand on tire le fil, on découvre tellement de choses passionnantes, à la fois sur le terrain local, des personnes comme Dominique et toute son équipe qui se mobilisent tous les jours et qui relèvent le défi de l'accès du livre et l'accès à toutes les formes que le livre peut initier. Et aussi une histoire beaucoup plus, une histoire culturelle finalement. Et ça, c'est quelque chose de culturel et d'éducation populaire, d'éducation permanente. Et là, je crois qu'on est vraiment dans la mission d'un centre d'archives et d'un centre d'histoire sociale. On est à la croisée de ces deux dimensions-là. Et moi, j'ai organisé ce numéro et piloté ce numéro avec un bonheur inégal. Donc, je trouve que faire de l'histoire et le mettre au service de ceux qui travaillent tous les jours dans ce domaine-là est vraiment un métier passionnant.
Tout à fait. Vous avez transmis un peu de cette passion en venant ici dans ces promesses de l'aube. Je ne résiste pas à lire quelques lignes d'une archive que vous avez inclue dans la revue, qui sont les recommandations aux lecteurs et qui m'ont beaucoup amusée. Et donc, il s'agit de cette recommandation.
On a mis aussi l'accent sur la recherche. Chaque article se termine par qu'est-ce qu'il reste encore à faire pour des jeunes historiens, pour des étudiants, s'ils veulent travailler ces questions-là. Et donc, chaque auteur a réfléchi en disant, voilà, il y a des fonds d'archives, il y a une problématique, il manque beaucoup de monographies de bibliothèques comme celle de Saint-Josse. Voilà, allez-y, faites des exercices, faites des travaux, faites votre mémoire, posez-vous des questions de recherche sur la question de la lecture publique. C'est vraiment un bien commun, en fait.
Le document que vous allez lire, c'est le fameux petit feuillet qui se trouvait au dos de la couverture avec les recommandations pour les lecteurs, c'est ça?
Oui, c'est ça. Oui. qui sont encore bien d'actualité.
Ça allait très loin. On pouvait être excommunié.
Et donc,
si on tâchait un livre et si on l'abîmait.
Voilà, la première recommandation, c'est ce livre doit servir à d'autres que vous, ne le salissez pas. 2, n'inscrivez pas les réflexions que la lecture des livres a suggérées. 3, pendant que vous lisez, n'ayez en main ni plume ni crayon. 4, ne tournez pas les feuillets avec les doigts humectés de salive, c'est contraire à l'hygiène. 5, ne pliez pas les pages en guise de signet, employez plutôt une liseuse. 6, ne laissez pas les livres à la portée des enfants, enveloppez-les après chaque lecture. Et 7, en observant les recommandations d'ordre et de propreté, le lecteur agit dans son propre intérêt. Voilà, elles sont toujours un peu d'actualité, surtout pour la salive. Et, merci beaucoup Dominique Brunier et Marie-Thérèse Kounen. Vous pouvez retrouver cette revue, ce numéro de la revue du CAROP sur le site du CAROP, carop.be, donc carhop.be. Merci beaucoup à vous deux et à tout bientôt. Et on va laisser la place à Radio Mukambo, normalement, sur Radio Panique. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.